Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le 14 juillet dernier, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, saluait l'accord sur le nucléaire iranien entre Téhéran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne.
C'est un accord historique, à la fois par son objet et parce que il peut faciliter une normalisation des rapports internationaux de l'Iran.
En effet, conséquence de cet accord, les sanctions économiques internationales qui frappent l'Iran devraient être progressivement levées à partir de 2016, dans 3 mois donc. L'économie iranienne a beaucoup souffert de son enfermement. Elle est aujourd'hui incapable de répondre aux aspirations des 80 millions d'Iraniens et en particulier de leur fournir des emplois en nombre. Dans cette émission, nous verrons donc en détail quelle est la situation économique actuelle de l'Iran et l'impact que pourrait avoir la fin des sanctions. Tout cela avec les 4 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Mahsti Razavi.
Bonjour.
Mahsti Razavi, vous êtes avocate au barreau de Paris et de New York, associée au sein du cabinet Auguste et Debouzy, un grand cabinet français, 120 avocats au total. Et vous dirigez un bureau Iran au sein de ce cabinet à Paris. Pourquoi un bureau Iran ?
C'est un bureau qui est un bureau très naturel, j'allais dire. Je suis d'origine iranienne, je suis arrivée en France il y a maintenant 36 ans. Et lorsque nous avons commencé à réfléchir et à accompagner un certain nombre d'entreprises dans le cadre de la levée des sanctions, l'ouverture et en tout cas la déclaration d'ouverture de cette activité a été absolument naturelle et normale. Et d'ailleurs, depuis le mois de juillet dernier, le nombre d'entreprises qui nous ont sollicitées dans le cadre de leur développement en Iran a été considérablement importante.
Alors nous allons voir ça dans le cours de l'émission. Également dans ce studio à mes côtés, Denis Ketabi. Bonjour Denis Ketabi.
Bonjour.
Vous avez créé la compagnie Pistachio Company.
Oui, de Pistachio Company. C'était
donc ça. Vous êtes exportateur de produits agricoles venus d'Iran.
Oui, tout à fait. J'ai créé cette société il y a plus d'une vingtaine d'années, destinée à produire, à exporter des denrées agricoles au départ de l'Iran, essentiellement de la pistache.
Donc vous fréquentez ce pays depuis combien d'années ?
Depuis 25 ans, je passe 15 jours par mois à peu près en Iran. J'ai plusieurs usines, plus de 1000 salariés et des terres agricoles.
Donc vous êtes un acteur économique important en Iran ?
En fait, la pistache est la première ressource en devise, hors produit pétrolier pour le pays. C'est un produit d'exportation, donc nous souffrons depuis quelques années des sanctions économiques liées au transfert des fonds.
Alors on va voir ça en studio également à vos côtés, Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Thierry Coville, vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous enseignez aussi à Novantia, une grande école de la Chambre de Commerce de Paris. Voilà 20 ans que vous travaillez sur l'Iran économique. Est-ce que les statistiques iraniennes sont fiables ?
Oui, je dirais que, contrairement à ce que certaines personnes disent, je pense qu'elles sont relativement fiables, même beaucoup plus fiables que beaucoup de pays émergents. Bon, ils disent pas tout, mais je pense qu'on peut avoir une assez bonne idée de ce qui se passe en Iran avec les statistiques.
On essaiera d'avoir une assez bonne idée à travers les statistiques, les chiffres, pas trop nombreux, que vous nous donnerez pendant cette émission. Enfin, je termine ce rapide tour de table par vous, Altin Lazaj, bonjour.
Bonjour.
Altin Lazaj, vous êtes journaliste au service économique de RFI, et si vous êtes dans ce studio, c'est qu'il y a quelques jours, vous étiez en Iran, dites-nous dans quel cadre ?
Dans le cadre d'une délégation du MEDEF, c'est la plus grande délégation européenne du MEDEF qui était en Iran récemment, 130 entreprises, beaucoup de PME. C'était une visite de reconquête du marché iranien.
Par ces entreprises françaises.
Par ces entreprises françaises.
Alors au cours de cette émission, nous entendrons les reportages et interviews que vous avez ramenés d'Iran, Altin, et aussi un reportage signé Ariane Gafuri dans les allées du Salon du Tourisme à Paris. Alors, je le disais en introduction de cette émission, l'âge de guerre du nucléaire iranien a été enterré le 14 juillet dernier et les sanctions doivent être progressivement levées. Est-ce que l'Iran a beaucoup souffert des sanctions économiques ? Denis Ketabi, vous aviez élaboré un début de réponse.
En fait, ce qui a véritablement endommagé l'économie iranienne, ce sont les sanctions financières plus que les sanctions économiques. Les sanctions économiques sont arrivées au départ. Enfin, il y a plusieurs couches. Hein, là, il y a la couche des Nations Unies qui vient toucher l'économie du nucléaire, ensuite oil and gas, mais
pétrole et gaz,
les domaines dans lesquels moi je suis actif n'ont pas été touchés par des sanctions économiques. Mais les sanctions financières sont qui interdisent en fait le mouvement de l'argent viennent bien sûr paralyser toute l'économie puisque on a le droit d'exporter mais on n'a pas le droit de se faire payer.
Ça veut dire quoi les sanctions financières ? Par exemple, concrètement dans vos activités ?
Concrètement, ça veut dire que si un établissement financier accepte de transférer de l'argent vers l'Iran ou de recevoir de l'argent en provenance de l'Iran, eh ben il fera face aux foudres de l'administration américaine.
Basti Razavi, vous, les entreprises qui vous contactent, rencontrent ce genre de problème financier ?
Alors, les entreprises qui nous contactent sont dans la perspective de cette levée de sanctions, c'est-à-dire qu'elles sont toutes extrêmement conscientes de la situation judiciaire de ce qui existe aujourd'hui au titre des sanctions. Et donc, les travaux que nous avons effectués, c'est vraiment dans la perspective de l'ouverture à compter du mois de janvier. Il est clair, comme le disait Denis il y a un instant, que les risques de sanctions économiques et fondamentalement dramatiques qui peuvent peser sur les entreprises qui ont fait ou qui ont voulu faire des affaires avec l'Iran au titre financier ces dernières années a été majeur. Et notamment, on a bien vu les sanctions d'une très grande banque française
la BNP Paribas.
En la matière.
Thierry Coville, les sanctions financières sont plus importantes que les sanctions économiques ?
Oui, je confirme tout à fait ce qui a été dit. Sans doute les sanctions financières avec l'embargo pétrolier, qui a quand même réduit de moitié l'embargo pétrolier, ce que l'Iran pouvait exporter en pétrole. Mais en plus des sanctions financières, c'est un effet catastrophique sur l'économie iranienne. Je pense qu'il y a peu de pays, peut-être on ne le sait pas assez, qui ont été autant sanctionnés que l'Iran. Et ça a eu un impact dévastateur. Je peux vous donner un peu de chiffre quand même. C'est qu'il y a eu une récession quand même de moins 6% en 2012. L'inflation a quand même été proche de 50%. Elle a dépassé 50% pour les produits alimentaires, pour l'habillement. La monnaie iranienne s'est effondrée. Donc ça a eu un effet complètement dévastateur sur l'économie iranienne.
Alors, quand on n'est pas un spécialiste de l'Iran, ce qui est mon cas, on a l'impression que depuis la révolution islamiste et l'arrivée au pouvoir de l'imam Khomeini à la fin des années 70, le pays est en marge de l'économie mondiale qui subit sanctions sur sanctions. C'est une impression exacte, Thierry Coville ?
Non, c'est pas complètement vrai. Déjà, l'Iran est un pays pétrolier, donc si vous voulez... Même les sanctions étaient peu efficaces en fait jusqu'à ces dernières années. Donc l'Iran exportait son pétrole, alors pas aux États-Unis mais aux Européens. Donc il y a eu un petit peu d'investissement étranger en Iran, notamment dans le secteur énergétique. L'Iran a commencé depuis quelques années à faire de l'exportation non pétrolière. Donc c'est vrai. Alors on va dire il y avait un blocage majeur qui était les relations avec les États-Unis. Donc si vous voulez, quand un pays exactement dans le monde dans lequel on vit n'a pas véritablement de relations officiellement économiques et financières avec les États-Unis, c'est vrai qu'on peut dire qu'il est un petit peu à l'écart de l'économie mondiale. L'Iran n'est pas membre de l'OMC, alors c'est une question peut-être qui va se poser.
L'Organisation mondiale du commerce.
Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est un pays à l'écart, mais je veux dire l'Iran n'est pas très différent de beaucoup d'autres économies pétrolières. Pour vous dire, jusqu'à peu de temps, 80% des exportations de l'Iran c'est le pétrole et le pétrole représente 55% des recettes. Donc c'est un petit peu ça qui masquait la réalité, c'est que on peut mettre autant de sanctions qu'on veut sur l'Iran, bah, l'économie continue à tourner tant bien que mal, et se dire du fait en grande partie du pétrole.
Alors Denis Ketabi, vous nous disiez que vous aviez vu l'Iran évoluer depuis un quart de siècle, que vous la fréquentez. Comment ça s'est passé au fil de ces années ? Est-ce que les difficultés ont été croissantes ?
Écoutez, non, elles ont été croissantes ces trois dernières années principalement. Précédemment, nous travaillions avec l'Iran de manière tout à fait officielle. J'étais même basé moi-même à Paris et je dirigeais les activités iraniennes, donc au départ de France.
Donc vous faisiez quoi concrètement ? Quelle était votre activité ?
Le siège social était en France et nous construisions des usines en Iran pour la production et l'exportation
de pistaches.
De pistaches en l'occurrence, mais pas seulement en Iran. Nous avions également des activités aux États-Unis, en Géorgie, en Turquie, etc. Partout où les fruits secs poussent. En fait, le comportement des établissements financiers a évolué à partir de 2012, en étant de plus en plus strict, en venant fermer les comptes bancaires des Iraniens, en interdisant toute transaction économique, même légale, même reconnue par l'administration française et par le Trésor, en faisant du zèle j'appelle vraiment ça du zèle, c'est-à-dire qu'ils ont fait plus de dommages que ce qu'on leur demandait. Tout ça par la peur de la sanction américaine. À tel point que mon entreprise française a été très endommagée par ces comportements-là, et j'ai dû donc fermer et me déplacer sur les Émirats Arabes Unis pour remettre le bureau d'exportation au départ de Dubaï et maintenir l'activité en fait de production en Iran.
Mastera Zavio, vous confirmez toute cette évolution là, au cours des dernières années, vous l'avez vu se produire?
On l'a vu se produire et on l'a vu de plus en plus d'un point de vue purement juridique dans les entreprises. Les programmes de conformité, tels qu'on les appelle dans notre jargon, ont vu le jour et ont fleuri dans toutes les grandes entreprises, et y compris des bien plus petites entreprises qui faisaient des affaires avec l'Iran, entre autres. Et la crainte de la sanction économique majeure, notamment liée aux activités des entreprises aux États-Unis, a eu des conséquences, en effet, absolument désastreuses, tant pour certaines entreprises françaises, mais aussi pour, évidemment, leur développement en Iran.
Alors, Denis Ketabi, vous nous disiez tout à l'heure là, que le durcissement était intervenu il y a 3 ans. Ça coïncide avec la fin, plus ou moins, du mandat d'Ahmadinejad, avec l'arrivée de Rouhani. C'est pas un peu contradictoire, Thierry Coville, ce durcissement au moment où un modéré va arriver au pouvoir?
Si vous voulez, historiquement, on voit que c'est à partir, je crois, 2007. En 2007, du côté des Européens, il commence à y avoir ce qu'on entend dire, c'est que ça sert à rien de négocier avec l'Iran. Il faut des sanctions, soi-disant. Alors ils disent on va négocier, mettre des sanctions, mais en gros on va faire la pression sur l'Iran pour arriver à les faire céder sur le nucléaire. Donc cette idée s'impose petit à petit. On a des sanctions qui sont prises effectivement aux Nations Unies, mais il y a déjà des sanctions américaines, des sanctions financières qui sont prises par les États-Unis. Mais je pense que le grand changement, il faut bien comprendre, c'est, je pense, que les Européens vont jouer le jeu quelque part. Avant, ils jouaient pas le jeu. Et ils vont commencer à appliquer effectivement avec beaucoup de zèle les sanctions financières américaines, et ils vont mettre en place leurs propres sanctions, un embargo pétrolier. On a sorti l'Iran du programme SWIFT, qui est un programme de paiement très, très utile, qu'utilisait beaucoup l'Iran. Il y a eu des sanctions également contre des banques iraniennes. Donc les Européens ont joué le jeu, ce qui va vraiment étrangler l'économie iranienne, je vous dis, à partir de, mon avis, 2011-2012. Donc l'effet a été, si vous voulez, en très peu de temps, mais massif. Massif, hein. Quelque part, il y a un discours en Europe qui dit oui, mais bon, les sanctions, nous, on respecte les droits de l'homme, etc. Je vous ai dit que les exportations pétrolières représentent 55% des recettes budgétaires iraniennes. Donc, ça sert à payer des instituteurs, ça sert à payer des salaires, hein. 70% des dépenses budgétaires iraniennes, c'est des salaires, des fonctionnaires. Donc, on les a privés de la moitié de ça. Donc, ça fait le tiers du budget. Vous imaginez un pays où on le prive du tiers de ses recettes budgétaires. Donc, l'effet était dévastateur. Et en plus, les sanctions financières, l'économie iranienne s'est arrêtée de fonctionner. Beaucoup d'entreprises ont arrêté de fonctionner. L'inflation a monté 50%. 50%, on n'est pas loin de l'hyperinflation quand même. Et ça, c'est arrivé effectivement à la fin du mandat d'Ahmadinejad.
Alors, il y a quand même un changement d'ambiance ces derniers temps. Est-ce qu'il s'est produit quand Rouhani est arrivé au pouvoir, ou est-ce que c'est ultérieur, Denis Ketabi?
Oui, l'arrivée de Rouhani a bouleversé les mentalités, en fait. Alors, il a réussi, par je ne sais quel tour de magie, à fédérer même ses opposants dans le cadre des négociations nucléaires. Alors qu'il y avait un vrai débat à l'intérieur du pays, il y avait les pour et les contre. Moi, je constate en Iran que tout le monde est maintenant pour.
Et que ça a un impact économique?
Alors, pour le moment, il n'y a aucun impact économique. Rien n'a changé aujourd'hui. C'était la 14e délégation en moins de 6 mois. Tous les pays arrivent, tous les pays veulent reconquérir l'Iran, tout le monde arrive. Mais si vous allez sur mon site internet, vous ne verrez pas le mot Iran. Parce que si une banque voit Iran sur mon site, mes comptes sont immédiatement fermés.
Mais pourtant, vous êtes ici à ce micro, et c'est pas un secret que vous travaillez en Iran.
Non, mais je ne suis plus basé en France, voilà.
Alors, vous parliez à l'instant, Denis Ketabi, des délégations qui se succèdent à Téhéran. Altine Lazage, vous étiez donc avec cette délégation du MEDEF. Une délégation importante, disiez-vous, une centaine d'entreprises françaises?
Plus de 130 entreprises françaises, beaucoup de PME surtout, hein, ça c'est assez rare, parce qu'en général, on voit que le CAC 40, mais le CAC 40, maintenant, n'a plus besoin d'être derrière une délégation, ils font des affaires eux-mêmes. Et donc, beaucoup de PME, en fait, c'était une visite de prospection. J'avais l'impression que MEDEF voulait rencontrer les décideurs politiques en Iran, parce que c'est très important, 80% de l'économie iranienne est centralisée. Et il y a un fort lien entre le pouvoir économique et le pouvoir politique en Iran. Donc, il y avait aussi deux ministres français le ministre de l'Agriculture et du Commerce extérieur, et c'était une visite à fort caractère économique.
Alors Maaz Tirazavi, vous étiez aussi dans cette délégation du MEDEF. Vous avez quitté Téhéran avec des affaires en poche, des contrats, de l'argent, des chèques,
tout ça. Plus sérieusement, il y a deux constats d'un point de vue, évolution encore une fois, qui était très intéressant. D'abord, la première chose, c'est qu'il y avait des entreprises qui officiellement ont fait un retour, alors même que enfin les langues se délient et que les uns et les autres nous ont exposé pendant ce voyage qu'ils avaient maintenu une présence pendant l'ensemble de la durée des sanctions avec des bureaux de représentation. Donc c'est une information qui est quand même intéressante parce que ça montre que les uns et les autres avaient quand même une perception de la temporalité de ces sanctions. La deuxième chose, c'est qu'on a rencontré un certain nombre de personnes qui s'installent à Téhéran. Nous avons bavardé, échangé avec des chefs d'entreprises plutôt conséquentes françaises qui installent femmes, enfants, familles en Iran dans le cadre du développement de leurs activités. Et certaines de ces entreprises, je suis ravie de dire qu'on les rencontre bientôt puisqu'ils sont en train de réfléchir à la structuration de leur installation, la structuration justement de cette installation par rapport à la levée encore une fois progressive des sanctions. Donc il y a énormément de choses à faire.
Des noms.
Sous le sceau du secret, non. Mais on va les voir arriver. Et c'est vrai que là, la période est encore sensible, hein, comme on le disait tout à l'heure. Les sanctions ne sont pas levées. Hein. On est encore dans une période intermédiaire dans laquelle les sanctions existent et elles s'imposent aux entreprises. Donc les uns et les autres ne peuvent pas faire leur sortie du placard avec vitalité.
Alors Altin Lazaj, au cours de cette visite, vous avez croisé le conseiller principal sur le plan économique du président Rouhani, Akbar Torkan, et il a énuméré à votre micro la liste des entreprises françaises qui pourraient, selon lui, opérer rapidement leur retour en Iran. On écoute Akbar Torkan.
We had very long cooperation for different area of economy with French company.
Nous avons eu une intense coopération économique avec les entreprises françaises, surtout dans les domaines de transport. Je peux mentionner ici le partenariat entre PSA et l'entreprise locale Iran Kodro. La plupart des voitures en Iran sont de marque PSA. Mais malheureusement, lors de la dernière décennie, ce partenariat s'est arrêté. Donc il n'y a pas eu de nouveaux produits en Iran. J'espère que maintenant ce partenariat va redémarrer. Dans le domaine de l'aéronautique également, la plupart des avions en Iran sont de marque Airbus. Actuellement, nous avons besoin de 80 000 sièges. Nous sommes en discussion de partenariat avec Airbus et Boeing. Nous avons aussi bien travaillé avec l'entreprise française Alstom, qui nous a fourni des locomotives. Maintenant, nous avons besoin de 1200 locomotives dans le cadre du développement de notre réseau ferroviaire. Vous voyez, il y a de quoi discuter de nouvelles coopérations. Dans le gaz et le pétrole aussi, Total était notre partenaire et nous avons gardé de très bons souvenirs de cette entreprise. J'espère que nous allons coopérer à nouveau.
Thierry Coville, c'est l'entrepreneuriat français qui va fournir tout ce dont il a besoin à l'Iran ?
Bah, il n'est pas le seul sur le marché.
Il y a eu beaucoup de délégations, lesquelles ?
Alors, si vous voulez, il faut dire le premier partenaire commercial de l'Iran actuellement, c'est la Chine. Ensuite, je pense qu'il y a les Coréens, enfin beaucoup les Indiens, les Turcs et les Européens sont retirés du marché. On vient de le dire. En fait, ils ont disparu des premières places sur le marché iranien depuis ces 3-4 dernières années. Donc, les autres les ont pas attendus. Donc, les Européens reviennent, les Asiatiques sont déjà là. Également, les Américains sont en train de revenir. Moi, je suis allé 2 ou 3 fois en Iran. Là, en Iran, c'est de notoriété publique. Hein. Les entreprises américaines négocient notamment dans l'énergie, dans l'automobile. On est en train de créer officiellement une chambre de commerce irano-américaine. Donc il y a eu un accord des autorités politiques iraniennes. Donc les Français ne sont pas les seuls. Alors il faut effectivement pas perdre de temps.
Alors Denis Ketabi, quand vous voulez construire une usine en Iran, vous vous adressez à quel fournisseur ? Aux Chinois ? À qui ?
Pas du tout. Tout est fait localement. L'Iran n'est pas un pays retardé, c'est un pays industrialisé. L'Iran fabrique des équipements, des machines, il y a une vraie industrie de la construction, etc. Il n'y a que dans la haute technologie où effectivement on amène des équipements de l'étranger. Mais sinon, tout est fait localement avec des entreprises
iraniennes. Ce ne sont pas les Chinois qui fournissent à la place des Allemands des machines-outils, etc.
Alors dans mon domaine d'activité ou dans les constructions d'usines alimentaires ou des installations industrielles, absolument.
Alors, c'est la fin de la première partie de cette émission consacrée à l'Iran. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout à l'heure.
Écho d'ici,
écho d'ailleurs sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de l'Iran, sur le point de faire son retour dans le grand jeu économique mondial. Au mois de janvier prochain, 5 mois après la signature de l'accord sur le nucléaire avec les grandes puissances, les sanctions économiques internationales qui frappent l'Iran devraient progressivement disparaître. Cela provoque déjà un appel d'air avec les visites d'innombrables investisseurs. Nous en avons parlé dans la première partie de cette émission. Mais dans quel état exactement est aujourd'hui l'économie iranienne? C'est l'objet de cette seconde partie et des questions auxquelles, je l'espère, répondront les 4 invités qui sont en studio avec moi. Denis Ketabi, président de Pistachio Company, Masti Razavi, avocate au barreau de Paris et de New York, associé au sein du cabinet Auguste et Debouzy, Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et professeur à l'école de commerce Novantia, et enfin Altine Lazage, journaliste au service économique de RFI. Thierry Coville, je me tourne vers vous, on voit l'intérêt des entreprises du monde entier pour l'économie iranienne. Quels sont les besoins économiques, industriels, financiers de cette économie?
Alors oui, il y a un besoin massif en investissement parce que, comme ça vient de dire, du fait des sanctions, beaucoup d'entreprises iraniennes ont arrêté d'importer notamment des biens d'équipement ou se sont tournées vers la Chine. Donc il y a un besoin massif d'importation de biens d'équipement dans beaucoup d'entreprises, dans l'industrie. Et puis il y a un énorme besoin en termes d'infrastructures, de transport. On a parlé des avions, là je pense que c'est un des problèmes numéro un en Iran, c'est qu'il faut absolument qu'ils renouvellent leur flotte aérienne parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont eu très peu d'accidents à mon avis par rapport aux embargos qu'ils avaient. Et puis il y a d'énormes projets en termes de construction de routes, bon, construction d'aéroports, j'en ai parlé. Il y a l'eau, je pense que l'eau est peut-être un des problèmes numéro un en Iran, donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils fassent des efforts en termes de, notamment le traitement de l'eau en Iran, qui est pas trop développé. Donc, j'ai discuté avec un ami iranien il y a quelques mois, il m'a dit, Thierry, nomme-moi un secteur, je te dirais qu'il y a des opportunités là-dedans en Iran. Donc, l'Iran est un pays, ça vient d'être dit, industrialisé, faut pas se tromper, c'est pas un pays qui va acheter n'importe quoi. Mais, je pense qu'il y a un tel potentiel de croissance, l'Iran pourrait faire facilement 8% de croissance chaque année.
Mais donc, 8% parce qu'il a reculé au cours des dernières années.
Non, c'est un pays qui est en retard en termes, si vous voulez, par rapport aux pays les plus riches. Un peu comme un pays émergent qui s'ouvre, si vous voulez. Il y a un retard en termes de PIB par habitant. Donc, normalement, il y a beaucoup de potentiel de croissance, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que tous les secteurs ont des opportunités actuellement en Iran. Mais effectivement, on pense également à l'énergie. J'ai oublié de parler, évidemment, très important, c'est l'énergie. L'Iran a tout son champ gazier à développer s'il veut commencer à exporter, notamment du côté du gaz LNG, dans gaz
liquéfié.
Gaz liquéfié, il y a d'énormes projets. Le pétrole, il y a quand même beaucoup de puits, à améliorer le rendement, etc. Donc, il y a énormément de besoins dans tous les domaines en Iran.
Masti Razavi, les entreprises qui vous contactent, vous avocate, elles sont dans tous les secteurs que vient d'énumérer Thierry Coville?
Oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, on voit de plus en plus d'entreprises dans le secteur des biens de consommation. Ce qui est intéressant aujourd'hui quand on va à Téhéran, c'est qu'on voit un certain nombre de produits que nous avons tous aujourd'hui en France. Alors, les uns et les autres se promènent avec des iPhones, ils se promènent avec, en tout cas, des outils technologiques qui sont des outils très, très moderne, sauf qu'il s'agit en général d'importations parallèles, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des produits qui sont achetés à l'étranger et importés en Iran sans l'autorisation des fabricants de produits. Et le besoin de la revente, ou en tout cas de la vente de produits d'origine et autorisés sur le territoire est très important. On voit des entreprises qui sont dans le secteur du luxe, qui sont très intéressées également, dans le domaine des cosmétiques, le vestimentaire, parce que l'Iran est aussi un pays extrêmement consommateur de cette typologie de produits, regarde de son nombre d'habitants et de la modernité aussi du pays lui-même.
Denis Ketabi, vous êtes témoin de ce besoin industriel. Vous, qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans le fonctionnement de votre entreprise si, quand les sanctions seront levées?
L'accès au financement. Pour être très clair, c'est l'essentiel. Si vous voulez, les Iraniens ont du savoir-faire. Ils sont éduqués. souvent éduqués aux États-Unis, en Europe, etc. Le taux d'illettré est extrêmement faible. Ce sont des vrais consommateurs. C'est pour ça que c'est un pays qui intéresse. Sauf que c'est un pays qui a été enfermé depuis, enfin économiquement refermé pendant des années. Donc aujourd'hui, la première chose, c'est donner de l'huile dans les rouages, du financement. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à ce moment, des fonds. Les fonds d'investissement, des private equity, etc., sont en train de regarder les domaines d'activité en Iran, qui sont des domaines intéressants, puisque le système financier iranien, c'est le vrai problème de l'Iran aujourd'hui.
C'est-à-dire, en Iran, en ce moment, il n'y a pas de banques étrangères, il n'y a pas de banques locales, nationales, privées, importantes, Thierry Coville ?
Non, mais il y a effectivement, du fait des sanctions, les banques étrangères n'avaient pas le droit de travailler en Iran. Bon, le système local a été complètement asphyxié par les sanctions, parce que déjà, si vous voulez, l'inflation est montée à 50%, donc le gouvernement, il n'a pas eu le choix, il a complètement comprimé toute la création monétaire et les crédits. Donc actuellement, le gouvernement, si vous voulez, il a la main sur le frein, et les banques n'ont pas le droit de faire plus de crédits. Déjà, les crédits qu'elles ont faits sous la période d'Ahmadinejad, elles ont, je pense, des parts très importantes de leur bilan qui sont ce qu'on appelle des créances douteuses. Donc le système iranien est très très faible financièrement. Donc je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. En fait, il faut absolument que le crédit reparte, mais ça veut aussi dire recapitaliser le système bancaire iranien, donc le mettre en bonne santé, supprimer les créances douteuses. Donc ça va coûter pas mal d'argent au gouvernement iranien.
Masti Razavi, vous, l'avocate qui fait le go-between en gros entre l'Iran et la France, vous voyez des banques françaises étudier le retour en Iran ?
Si elle l'étudie, et j'imagine, ou en tout cas j'imagine ce serait une bonne idée de l'étudier, c'est totalement off pour le moment, parce qu'encore une fois, pour revenir à la sanction BNP Paribas, celle-ci était tellement dramatique que la frilosité, elle est absolue, et il n'est pas question à ce moment de faire de sortie sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, pendant le voyage du MEDEF, aucune banque n'était représentée. En revanche, c'est vrai que la question du financement est importante, et ce que l'on a vu aussi lors de ce voyage en Iran, c'est que les entreprises et les autorités iraniennes réfléchissent à des mécanismes de mise en place de financement qui seraient des mécanismes, j'allais dire, très modernes par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui en Iran. Ils sont en train de réfléchir à des systèmes tels que des PPP,
des partenariats
public-privé. Oui, public-privé, des systèmes de financement sécurisés par un certain nombre de garanties qui peuvent être prises dans des pays étrangers. Donc les uns et les autres sont, en plus du système bancaire sur place, sont en train de réfléchir sur la sécurisation de l'ensemble du système en regardant ce qui se passe à l'étranger. Et la comparaison de ce qui peut exister à l'étranger est forcément très intéressant.
Tout cela sûrement intéressera l'homme qu'on va entendre maintenant, le maire de Machad. Machad, c'est la deuxième ville d'Iran, à 900 km à l'est de Téhéran, non loin des frontières du Turkménistan et de l'Afghanistan. C'est une ville sainte, et Altin Lazaj, vous avez rencontré donc Solat Mortazavi, il vous a dit quels étaient les besoins de sa ville, on l'écoute.
Dans Machad Mouqaddas, 1600 projets.
Il y a près de 1600 projets pour la ville et toute la région. Ce sont essentiellement des projets d'infrastructure, construction de routes, élargissement des trottoirs et de boulevards, construction de métros ou de stations de bus pour la ville, construction de ponts, etc. On a aussi des projets culturels, comme la construction de salles de sport ou de mosquées. Une partie de ces projets va être financée par la municipalité et l'autre partie par le secteur privé. Ils vont coûter à peu près 2,5 milliards de dollars, car notre ville est riche. 52% des hôtels d'Iran sont à Machad. Chaque année, 30 millions de pèlerins visitent notre ville.
Cette liste de travaux, de matériel dont il a besoin, le maire de Machad, elle vous impressionne ou ça correspond à ce que vous...
Ça ne m'impressionne pas du tout. Le maire parle évidemment de besoins d'infrastructures, mais... Ils ne demandent pas de la technologie pour le faire. Ils ont la technologie. Ils cherchent le financement pour le faire.
Thierry Coville, cette liste.
Oui, c'est vrai. Ce qui peut-être les auditeurs comprennent pas très bien, c'est que l'Iran est un pays industrialisé. C'est un pays pétrolier, mais il y a une base industrielle qui est née du temps du Shah, d'ailleurs. Et il y a des véritables entrepreneurs en Iran. Bon, on en a ici. Il y a un secteur privé. Alors, le problème du secteur privé iranien, c'est qu'il est un peu étranglé par le secteur public iranien qui, depuis la révolution, on va dire, contrôle 80% de l'économie. Donc, un des objectifs de Rouhani, c'est vraiment de développer le secteur privé. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut privatiser. On sait qu'en France, dans n'importe quel pays, c'est pas évident parce que ça, le problème de l'emploi. Si on privatise un certain nombre d'entreprises publiques en Iran, bah, ils vont restructurer et ils vont licencier des gens et le taux de chômage est sans doute aux alentours actuellement de 18-20%. Puis il y a un autre grand problème, et moi j'ai fait une petite enquête sur les entreprises privées en Iran, ils m'en parlent, c'est ce qu'ils appellent le parapublic. Enfin, c'est peut-être pas un bon terme pour l'Iran. Il faut savoir qu'il y a des secteurs en Iran qui sont un peu bizarres, qui sont ni publics ni privés, qui font un peu ce qu'ils veulent, qui font la loi et qui mettent une énorme pression sur le secteur privé iranien. Donc il y a les pasdarans qui contrôlent pas mal d'entreprises.
Ça, c'est les milices religieuses.
Non, c'est une partie de l'armée, on va dire, qui s'appelle les pasdarans, qui sont très fidèles au régime, qui ont été créés après la révolution, qui ont beaucoup d'entreprises. Et vous avez les fondations en Iran, on appelle Bonyad en Iran, qui contrôlent, on ne sait pas en fait, mais ils contrôlent, ils sont dans tous les secteurs. Et le secteur privé est en train de dire au gouvernement, écoutez, nous on est prêts, ça vient d'être dit, on a tout pour se développer, mais alors là, on veut de la concurrence saine. On en a marre de ces faunés du secteur privé qui sont qui ont des appuis dans le régime et qui font ce qu'ils veulent et qui nous empêchent de nous développer. Donc ça, c'est tout une petite partie des challenges que devra.
Alors Denis Ketabi, vous êtes un pasdaran caché, un fauné du régime.
Ah non, du
vous
pur
vous mettez
privé.
Dans quelle catégorie?
Non, non, du pur privé. Effectivement, malheureusement, notre accès au financement est limité aux banques iraniennes au taux de 28% et développer une activité privée avec des conditions financières excessivement difficiles, évidemment, c'est pas simple. Mais on y arrive.
Mais vous avez affaire au secteur public, à cet appareil d'État iranien au quotidien?
Alors, l'appareil d'État sur le plan administratif, c'est une chose. Alors, c'est une montagne à gravir tous les jours pour obtenir les licences, les autorisations. Dès qu'on veut bouger, il nous faut un tampon.
Et un petit billet, au passage?
Je vais pas vous dire non, mais de moins en moins. Alors à très très haut niveau dans l'État, je ne sais pas, je ne pense pas. Je trouve le gouvernement plutôt sain par rapport à ce qu'il a pu être par le passé. Par contre, à petit niveau, pour effectivement de l'huile dans les rouages, dans tous ces pays-là, et la corruption est un phénomène qui existe malheureusement. Mais encore une fois, je dis, moi je constate une diminution.
Revenons vers les entreprises privées, Altin Lazaj. Au cours de votre séjour en Iran, vous avez rencontré des entrepreneurs iraniens, autres que Denis Ketabi. C'est l'objet du reportage qu'on va écouter. Où est-ce que vous nous emmenez?
Je vous emmène dans les locaux de l'agence Aftabnet, la plus grande agence privée de pub iranienne basée à Téhéran. L'ambiance y est détendue et tout le monde parle couramment l'anglais. On a l'impression d'être dans une agence en plein cœur de New York. Hein. C'est ici que je rencontre Zahra Azmoudeh Giacomini qui, depuis l'an dernier, travaille en partenariat avec Aftabnet. Cette franco-iranienne a quitté un poste au nord dans une multinationale pour créer à Paris une société spécialisée sur l'Iran.
J'ai exercé 20 ans les métiers de la communication au sein des grands groupes françaises à Paris. Au bout de 23 ans d'expérience, j'ai décidé de créer ma propre agence d'affaires publiques spécialisée sur l'Iran pour rapprocher la France et l'Iran, notamment en termes de culture et de business.
Zahra vit maintenant entre Paris et Téhéran. Elle n'a pas attendu l'accord sur le nucléaire pour se lancer dans cette aventure.
Disons que c'était plus une anticipation parce qu'on sentait que le pays commençait un petit peu à être prêt à s'ouvrir et ça fait juste 35 ans que je regarde sous la loupe cette évolution. Ça fait pas que de moi que l'idée est venue. C'est un projet qui a mûri depuis longue date.
Est-ce que c'est facile de travailler avec les Iraniens, de faire des affaires?
C'est pas plus difficile que les autres peuples. Encore faut-il connaître leur culture, leur mentalité, les démarches et respecter les us et coutumes locales. Une fois qu'on les maîtrise parfaitement, ça devient presque plus facile que les autres peuples.
Sam Nafisi, le chef du département de développement international d'Aftabnet, me montre avec fierté une publicité sur les piles électriques très connue à la télé iranienne que son agence a réalisée récemment. Cet américano-iranien a quitté les États-Unis pour venir s'installer à Téhéran. Pour lui, l'Iran représente aujourd'hui une opportunité à saisir pour les jeunes de la diaspora iranienne. La levée des sanctions prévues début 2016 donne de l'espoir aux entreprises locales. Dariush Faizi est gestionnaire de compte chez Aftabnet.
La levée des sanctions va attirer, je l'espère, des clients de tous les continents. Ces entreprises qui viennent investir en Iran auront besoin pour s'implanter dans notre pays de campagnes de publicité. Et nous espérons pouvoir les accompagner dans cette démarche.
Outre l'accord sur le nucléaire, l'élection du président réformateur Rouhani a été également un autre signal fort pour ces jeunes Iraniens qui ont grandi ou fait leurs études à l'étranger.
C'était un reportage signé Altine Lazage et vous êtes toujours sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous parlons de l'Iran avec quatre invités, le professeur Thierry Coville de l'école de commerce Novantia, l'avocate Mahasti Razavi du cabinet Auguste et de Bouzy, Denis Ketabi, président de Pistachio Company et Altine Lazage, donc on vient d'entendre, journaliste au service économique d'RFI. Alors je reviens à ce reportage d'Altine Lazage, on y voyait le retour de gens de la diaspora. Mahasti Razavi, c'est un phénomène important, massif. Vous en avez une idée précise ou pas?
Il y a au cours des dernières années un certain nombre d'Iraniens qui sont rentrés en Iran pour justement développer des activités parce que les opportunités locales existaient et en tout cas avaient une perspective d'évolution. Je ne suis pas certaine que l'on puisse dire aujourd'hui qu'il y a un retour massif d'Iraniens, mais en tout cas notre sensibilité et le fait que ce soit quand même notre pays fait que l'on regarde ce développement avec un supplément d'âme qui nous est très propre.
Denis Ketabi, corroborer ce...
Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait de cette opinion. Je rajouterais qu'il va falloir quand même être assez prudent dans les mois et les années qui viennent, puisque j'ai un peu peur de l'excitation ambiante. Et j'ai peur du phénomène de douche froide. Voilà, tout va bien, tout est réglé, tout est réparé. Alors que c'est pas du tout vrai. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les fondations à reconstruire. Et tous les pans de l'économie ne sont pas concurrentiels ou compétitifs. Il va falloir bien choisir.
Par exemple.
Je préfère pas citer je préfère le faire dans l'autre sens. Il y a des secteurs d'activité qui vont être beaucoup plus intéressants et qui ont un plus fort potentiel. Le domaine, bon, évidemment, moi je parle du domaine agroalimentaire. En tout cas, des domaines qui sont liés à l'exportation. Évidemment, tout ce qui est pétrochimie, tout ce qui est minerai. Parce que certains domaines où l'Iran est industrialisé mais ne pourra pas concurrencer les pays qui ont 20 ans d'avance sur eux. Donc ça va prendre quand même beaucoup de temps.
Thierry Coville, quels sont les secteurs les plus attardé, dirais-je.
Non, mais on vient de dire que l'économie iranienne est dominée à 80% par le secteur public. Donc, dans n'importe quel pays du monde, le secteur public, si vous voulez, il est contrôlé par l'État, c'est lourd, ça prend du temps, les gens sont pas forcément très motivés. D'ailleurs, l'agroalimentaire, je pense, c'est le secteur où il y a le plus de concurrence. C'est-à-dire, le reste, l'automobile, la sidérurgie, l'hôtellerie, malheureusement. Enfin, partout où il y a le secteur public, comme partout dans le monde, c'est vraiment pas concurrentiel. Donc, c'est un des grands enjeux. C'est pour ça que les challenges sont énormes, hein. Ils doivent développer la part du secteur privé, rendre l'économie iranienne plus compétitive, mais il y a également le problème du chômage. Donc c'est cette transition à faire qu'ont connu beaucoup d'autres pays qui passent d'un système à un autre. C'est à la fois rendre l'économie plus compétitive, mais il y a un taux de chômage. On peut dire
massif.
En réalité, officiellement, il est à 10-12%. Le gouvernement lui dit lui-même qu'il est aux alentours de 18-20%. Et il y a beaucoup de gens qui font des études en Iran. Donc, ils doivent faire attention à tout ça, si vous voulez. Donc, c'est vrai que les années prochaines vont être décisives pour l'économie iranienne.
Alors, tout à l'heure, je disais en introduction de cette seconde partie que l'Iran allait effectuer son retour sur la scène économique mondiale. Est-ce que c'est pas un peu optimiste?
Ça fait des années qu'on dit qu'il y a un énorme potentiel pour l'économie iranienne, et puis toujours pareil, quand le potentiel ne se réalise pas, il y a peut-être un problème. Mais là, je pense qu'il y a un optimisme en Iran, et ça a été dit, je pense que Rouhani, je pense qu'il est très clairement pour l'ouverture de l'économie iranienne. Les ministres, moi je lis ce qu'ils disent, c'est vraiment des gens sérieux, qui ont fait des études à l'étranger, qui veulent ouvrir l'économie iranienne, qui connaissent ses caractéristiques. Il a donné plein de gages au secteur privé. Je veux dire, je sais qu'il va dans des réunions en province, il met les secteurs privés au premier rang, vous savez, c'est des signes importants. C'est-à-dire, en gros, je suis avec vous. Donc, il est au conscient de ça. On vient de dire, il y a plein de problèmes.
Denis Ketabi, vous avez participé à ce genre de réunion?
Absolument.
Ça se passe comment?
Bon, vous savez, c'est des réunions politiques où vous êtes invité, ne pas y aller, c'est pas bien, donc vous y allez. Et puis, vous repartez de là, il s'est rien passé. Mais c'est une ambiance, en fait, hein. C'est une ambiance générale qui montre que l'État veut régler les problèmes. Bon, en fait, ça nous donne de l'espoir, en fait, hein. Mais tant que le système financier iranien n'a pas été réglé, n'a pas été réparé, je pense, le secteur privé ne pourra pas décoller. Ça, c'est une certitude. Hein.
Il y a un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est le point pétrolier, Thierry Coville. L'Iran produit relativement peu de pétrole par rapport à ses réserves, à son potentiel. Est-ce que la fin des sanctions va permettre à l'Iran d'inonder, entre guillemets, le marché pétrolier mondial?
Non, mais on sait ce qui s'est passé, parce que c'était fait partie des sanctions. Disons, les sanctions ont limité à 50% les exportations pétrolières de l'Iran. Donc avec la fin des sanctions, l'Iran va revenir à 100% de ses exportations. Donc ça va faire à peu près 1 million de barils le jour en plus d'exportation.
Du jour au lendemain?
Alors, ça va sans doute être progressif, etc. Bon, il y a l'effet que la réaction du marché pétrolier mondial à, effectivement, l'arrivée d'Iran, mais je pense qu'elle était là, quand même assez anticipée. Mais c'est vrai que l'Iran est un peu à la croisée des chemins, parce que on parlait des challenges. On a eu le pire des scénarios pour l'Iran, c'est, voilà, il y a de l'argent qui va arriver, on va avoir les actifs qui vont venir de l'étranger, la production pétrolière revient, et puis on repart comme avant. Et on oublie qu'effectivement, il faut peut-être calmer les attentes des gens. Il y a des réformes peut-être un peu douloureuses à faire pour redonner de la compétitivité à l'économie iranienne et pas faire que consommer et profiter du pétrole comme ça a été trop fait dans le passé en Iran.
Alors, il y a en tout cas, on parlait du chômage il y a quelques secondes, il y a en tout cas un secteur qui est un relativement gros pourvoyeur d'emplois un peu partout dans le monde où il se développe, c'est le secteur du tourisme, un secteur balbutiant en tout cas en Iran, comme Ariane Gafuri a pu s'en rendre compte en arpentant les couloirs du salon du tourisme à Paris. On écoute son reportage.
Si le nombre de voyageurs à s'aventurer sur les terres perses est rare, il a explosé en très peu de temps. 900 Français ont visité ce pays mythique cette année, contre seulement une dizaine il y a 2 ans. René-Marc Chicli, président du syndicat des tours opérating.
Vous avez un panel de gens qui, depuis 2013-2014, allaient en Iran, connaissaient les codes. Et aujourd'hui, l'amélioration des relations diplomatiques, le jeu de la France vis-à-vis de l'Iran, comme on est très important, fait en sorte qu'on espère au moins faire au moins 5000 clients, voire plus. Sachant tout ce que peut présenter au niveau culturel cette destination nouvelle, si on veut dire.
Cette destination nouvelle, l'agence de voyage iranienne Ark El Jadid l'a mise en valeur. Une grande affiche de la mosquée royale d'Ispahan, au dôme jaune soleil et bleu azur, attire le regard. Negin Kashi renseigne un visiteur.
C'est la carte de l'Iran. Après les accords nucléaires, il y en a beaucoup de tourisme parce que l'Iran a une histoire très très riche. Par exemple, Chorazanbil à Ahvaz, à Chush, c'était la première civilisation.
Difficile de croiser ici les quelques aventuriers français à s'être rendus en Iran. Des brochures dans les mains, Jacques et Aline songent à leurs prochaines vacances et s'y intéressent.
C'est vrai que c'est des destinations qui font un petit peu peur par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuel. Mais je pense que c'est des destinations où il faut aller maintenant. Parce qu'une fois que ça va vraiment être ouvert, ça va complètement changer.
Qu'est-ce qui vous attirerait en Iran ?
La Perse, l'histoire de la Perse. L'Iran moderne, non, maintenant, puisque ça a été foutu en l'air par Roménie. Mais bon, c'est intéressant de voir un pays qui s'ouvre au tourisme.
Un code vestimentaire assez strict est exigé en Iran, mais cela ne rebute pas cette visiteuse.
S'il faut porter un voile et se mettre des trucs longs et tout, je respecterai.
Christine est une des rares à refuser de se plier au code de la culture iranienne.
J'ai pas spécialement envie d'aller en Iran, de me voiler. Je sais qu'il y a de très belles choses à voir, mais pas dans ces conditions-là.
En attendant de découvrir ce nouveau pays, quelques notes de musique avec une voix qui perce, celle d'Alizera Gorbani.
Alors après ce petit interlude musical, revenons à notre sujet, l'économie iranienne. Mahasti Razavi, quelle est la place des femmes dans l'économie de ce pays ?
Elle semble être pour le moment assez faible, à tout le moins officiellement. C'est vrai que l'on évoque le taux de chômage. Donc d'abord, le chômage des femmes est très élevé en Iran. Ensuite, je pense que culturellement, petit à petit, les choses vont aussi évoluer. Dans un certain nombre de rendez-vous, de rencontres, vous rencontrez des femmes, mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement minoritaires à ce jour.
Vous avez des employées femmes dans vos usines, Denis Ketabi ?
Sur 1200 personnes, j'ai 1140 femmes.
Ben alors, c'est complètement à rebours de ce qu'on est en train de dire.
Oui, mais parce que c'est un travail, c'est des ouvriers, des ouvrières. Et donc, les femmes sont beaucoup plus méticuleuses et travaillent mieux, donc nous employons des femmes.
Des métiers manuels ?
Des métiers manuels.
Et au niveau des cadres, de la direction ?
Aussi, également. Notre responsable administrative est une femme. Nous avons, nos responsables qualité sont des femmes. Enfin moi je ne rejoins pas tout à fait, je m'en excuse, cette opinion. D'abord, les femmes en Iran travaillent, conduisent, ont eu le droit de vote avant la Suisse. C'est pas du tout ce qu'on en dit. Alors elles peuvent, effectivement, il y a des contraintes vestimentaires à porter le foulard, c'est vrai. Mais dans la place de la femme dans la société iranienne est quand même très très importante. Elles sont éduquées, le nombre de filles à l'université, le nombre de diplômés est plus important que le nombre de garçons. Non, c'est pas ce qu'on veut bien en dire. La réalité est tout autre.
Altin Lazaj, lors de votre passage à Téhéran, vous avez constaté ça?
Justement, dans l'agence Aftabnet, 70% des employés étaient des femmes. Et quand j'ai posé la question au directeur de l'agence, pourquoi ce phénomène, il m'a dit, parce qu'ils sont plus doués que nous.
Thierry Coville?
Oui, je confirme, il y a 60% de filles dans les universités en Iran, elles sont dans tous les domaines, même les domaines avant réservés aux hommes, et de plus en plus de femmes ingénieures.
Mais vous disiez tout à l'heure qu'elles étaient aussi beaucoup frappées par le chômage.
Oui, mais par exemple, j'ai fait une petite enquête, là, j'ai rencontré 25 entreprises familiales en Iran, et c'est 3 dirigeants femmes. Et d'ailleurs, c'est très important au niveau des mentalités, c'est très important. Je posais la question souvent, si jamais vous avez un garçon ou une fille, est-ce que ça vous pose un problème, que ce soit votre fille est plus compétente que votre fils, si elle hérite? Aucun problème en Iran, même dans les, si vous voulez, et c'est dans partout en Iran. Je suis allé dans le sud-ouest de l'Iran. Alors il y a des différences culturelles en Iran, mais je veux dire, il y a vraiment une évolution et très étonnante des mentalités en Iran. Et je dirais la place de la femme est tout à fait claire. Elle est acceptée dans la société civile iranienne.
Alors, on va terminer cette émission par un peu de prospective très rapidement. Masti Razavi, dans 5 ans, où est-ce que vous voyez l'Iran?
Je prendrais plutôt l'option d'une ouverture et je l'espère une croissance dans sa modernité, puisque même si l'Iran est aujourd'hui très moderne par rapport à ce que l'on imagine de l'extérieur, je vois une grande évolution. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais pour l'Iran.
Denis Ketabi, vous, qu'est-ce que vous espérez?
Écoutez, avant la révolution, l'Iran était devant la Turquie sur le plan économique. Aujourd'hui, on a 10 ans de retard par rapport à la Turquie. Je pense qu'en 5 ans, nous allons rattraper l'économie turque.
Thierry Coville?
Oui, moi je suis assez confiant. Bon, faut toujours faire attention aux pronostics qu'on fait avec l'Iran, mais on a une telle révolution des mentalités en Iran, on a vraiment une société civile moderne, et je pense qu'elle aura un énorme impact économique, politique, culturel dans les prochaines années.
Eh bien, cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à l'Iran, est maintenant terminé. Guillaume Munier était à la réalisation. Merci à vous quatre, Masti Razavi, Denis Ketabi, Thierry Coville, Altin Lazaj, d'y avoir participé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel écho d'ici, écho d'ailleurs.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.